Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir afin qu'en moi le premier Jésus-Christ montra toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or, qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. J'exhorte donc avant toute chose à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, témoignage qui devait être rendu en son propre temps, pour lequel moi j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des nations dans la foi et dans la vérité.
Paul avait été désigné apôtre de Jésus-Christ selon le commandement de notre Sauveur et du Christ Jésus, notre espérance. Selon le commandement de notre Dieu Sauveur, c'est sous ce caractère que Dieu se présente dans cette première épître à Timothée. Nos frères, hier après-midi, nous ont parlé de ces différents caractères de Dieu au cours des divers chapitres de cette épître. Il est essentiellement dans les épîtres pastorales à Timothée et à Tite, le Dieu Sauveur, notre grand Dieu Sauveur. Il est cela à l'égard de tout homme. Mais Paul avait été désigné apôtre de Jésus-Christ aussi selon le commandement du Christ Jésus, notre espérance. Jésus-Christ est cela, notre espérance, vis-à-vis des fidèles, vis-à-vis de ceux qui ont mis leur confiance en son nom. Le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui soit donné aux hommes sous le ciel par lequel il leur fallait être sauvés. Donc, le commandement du Dieu Sauveur à l'égard de tout homme et de Jésus-Christ, notre espérance, à l'égard des fidèles qui ont le bonheur et le privilège de l'attendre. Grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus, notre Seigneur, voilà le vœu qui est formulé à l'endroit de Timothée, avec cette adjonction de la miséricorde que l'on ne trouve pas dans les salutations adressées aux assemblées. Mais quand il s'agit d'individus, alors nous avons ce terme de miséricorde, un terme infiniment précieux, tant il est vrai que chacun individuellement, nous avons toujours besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons au verset 3e le but pour lequel Timothée est resté à Éphèse. afin qu'il ordonne à certaines personnes de ne pas enseigner les doctrines étrangères et de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables qui produisent des disputes. Nous avons parlé de ces doctrines diverses et étrangères, de ces fausses doctrines selon certains passages du Nouveau Testament. Eh bien, il fallait interdire à ces personnes d'annoncer et de propager de telles fausses doctrines. Et tout cela produit des disputes plutôt que l'administration de Dieu qui est par la foi, l'administration de la grâce de Dieu dont nous avons l'expression dans l'Évangile lui-même. Et à une telle grâce, notre foi s'attache. L'administration de Dieu qui est par la foi. Au cours de cette première épître, nous verrons que ce terme « administration » a un sens plus restreint en rapport avec l'Église de Dieu, l'Assemblée de Dieu, du Dieu vivant sur la terre. Et au verset 5e, l'apôtre s'interrompt pour ainsi dire pour montrer tout de suite quel est le but de cette ordonnance ou de ce mandat qu'il confie à son enfant véritable dans la foi Timothée. Quelle est cette fin? Quel est ce but de l'ordonnance? C'est l'amour. Donc un but très simple, c'est l'amour. Peut-être pourrions-nous dire que c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à réaliser. Le but de cette ordonnance, c'est l'amour, mais un amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, c'est-à-dire cette confiance qui, en toute sincérité, s'appuie, cette confiance qui est en Dieu et en Dieu seul. C'est le sens du mot « foi » dans ce passage, alors que dans plusieurs autres, la foi représente l'ensemble de la doctrine chrétienne à laquelle notre foi s'attache. Ici, c'est simplement la confiance, une confiance sincère en Dieu. Et alors, si une telle confiance a lieu, il ne sera pas difficile de réaliser cette pureté du cœur et cette conscience bonne, c'est-à-dire une conscience qui est à l'aise vis-à-vis de Dieu. On s'en était détourné d'une telle foi, on s'était adonné à un vain babil, on était devenu de vrais babillards, voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. Et alors, l'apôtre, après avoir parlé de l'amour et de la foi, nous parle par voie de contraste de la loi, ministère de condamnation et de mort. Et combien c'était une grave erreur que de vouloir placer les âmes sous un tel joug, le joug de la loi. Depuis le verset 8, l'apôtre nous parle de la loi qui est bonne, elle est venue de Dieu, elle ne peut pas être autre chose que bonne, puisque c'est un don de Dieu. Mais elle est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas pour le juste, elle n'est pas pour un croyant aujourd'hui. Elle est pour les iniques et les insubordonnés, c'est-à-dire ceux qui méprisent toute autorité. On ne veut plus rien d'aucune autorité, et la loi est pour ces gens-là tout d'abord, puis toutes sortes de catégories de personnes s'adonnant aux péchés les plus graves. Et l'apôtre termine une telle nomenclature par ces mots, fin du verset 10, « S'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, dit l'apôtre qui m'a été confié. » Les mauvaises doctrines, les fausses doctrines, les doctrines étrangères, diverses et perverses, sont toujours mentionnées au pluriel. Tandis que la bonne doctrine est mentionnée au singulier pour l'excellente raison qu'il n'y a qu'une saine doctrine, il n'y a qu'un saint enseignement. Le mot doctrine et le mot enseignement sont un seul et même mot dans le texte original. Il y a la saine doctrine, alors la loi est pour ceux qui sont opposés à la saine doctrine. Cette doctrine qui est en fait présentée par l'Évangile, cela nous montre déjà l'ampleur de l'Évangile de la grâce de Dieu et l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. On a insisté hier, et avec combien de raisons, sur la grandeur et la dignité de l'Évangile. Notre frère, M. Gibert, nous a parlé de ses procédés, de ses propos indignes de l'Évangile, dont on se sert aujourd'hui dans un sens de la vulgarisation de l'Évangile. Il ne faut pas nous adonner à de tels procédés, il ne faut pas nous livrer à de tels propos, il nous faut être, comme chrétiens, conscients de la grandeur, de la hauteur, de la dignité de l'Évangile. Grandeur qui est exprimée par ces mots, l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Il est donc le Dieu bienheureux, ce Dieu qui seul possède le vrai bonheur, et alors, pensée infiniment douce de la grâce insondable de Dieu, c'est que Dieu n'a pas voulu rester seul dans sa propre félicité. Il a voulu rendre participants de son propre bonheur des êtres, tels que nous sommes tous par nature, des pécheurs morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Il a voulu rendre de tels êtres bienheureux, et c'est là le but de l'Évangile et le but de la prédication de l'Évangile. Les âmes sont invitées à connaître un tel bonheur et pour l'éternité. Et dès que l'apôtre a parlé de la grandeur d'un tel évangile, il est amené à rendre grâce. Au verset 12, « Je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. » Et on a rappelé hier combien cela a été un souvenir douloureux pour l'apôtre jusqu'à la fin de sa vie. La première épître à Timothée a été écrite quelques 2 ans avant la deuxième, et la deuxième est le dernier écrit de l'apôtre Paul. Eh bien, vers la fin de sa vie encore, il est pénétré de cette pensée, fort douloureuse pour lui, qu'un jour il a persécuté l'Assemblée de Dieu. Les passages d'1 Corinthiens 15, Galates 1, Philippiens 3 ont été rappelés jusqu'à celui-ci où l'apôtre est dans l'adoration, en présence de la miséricorde de Dieu, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. Il était un blasphémateur. Il n'avait pas été seulement un blasphémateur, ce qui était déjà très grave, mais il avait entraîné d'autres à blasphémer. Il le dit dans son apologie du chapitre 26e du livre des Actes, « Je l'ai contraignait à blasphémer. » Il était blasphémateur et il contraignait les autres, les croyants, à blasphémer le beau nom du Seigneur. Mais miséricorde m'a été faite. Et on a relevé hier également que s'il dit qu'il était ignorant et incrédule, c'était pas du tout une circonstance atténuante, mais il reconnaît ce fait, moi, j'étais un ignorant, je n'aurais pas dû l'être. J'étais un incrédule, je n'aurais pas dû l'être. Et pourtant, à un tel être pareil, miséricorde a été faite. Et voilà pourquoi 2 fois il souligne la pensée de la miséricorde de Dieu. Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Une telle constatation de l'infinie miséricorde de Dieu à son égard amène l'apôtre alors à cette déclaration. absolue du verset 15. En fait, c'était là que nous en étions restés hier. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Et du moment qu'il dit qu'il est le premier des pécheurs, et il le dit en parfaite sincérité et en parfaite conviction, alors aussitôt il est ramené à parler de la miséricorde de Dieu. Mais, dit-il au verset 16, « Mais miséricorde m'a été faite ». Nous en étions donc restés en fait au verset 15 hier. Cette parole est certaine. Il n'est pas inutile de rappeler, ce qui a été rappelé déjà plusieurs fois ici même, que cette expression, cette parole est certaine, nous la trouvons à cette reprise dans les Écritures, dans les épîtres pastorales d'une part et dans le livre de l'Apocalypse d'autre part. Nous avons ici la première, cette parole est certaine et véritable, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est la parole du début, c'est la parole du commencement, cette parole est certaine et véritable. De la parole de la loi, il n'est jamais dit qu'elle était certaine. Si vrai que cela put être, il n'est pas dit que la parole de la loi était certaine. Qu'est-il dit de la parole de la loi? C'est l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2e, qui nous dit « Cette parole était ferme ». Au début du chapitre 2e, cette parole était ferme, elle n'acceptait pas la moindre transgression. Elle exigeait bien au contraire la mort du transgresseur. Cette parole était ferme, c'est la parole de la loi, mais la parole de la grâce est certaine et digne de toute acceptation. Nous retrouvons cette expression au chapitre 3e en rapport avec l'ordre dans l'assemblée de Dieu. Nous la retrouvons au chapitre 4e quand il est dit au verset 9 en rapport avec l'exercice de la piété. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Dans la 2e épître à Timothée, au chapitre 2e, nous avons à nouveau au verset 11, cette parole est certaine en rapport avec le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Dans l'épître à Tite, nous avons une 5e mention. Quand le grand plan de Dieu en rapport avec le salut nous est donné au début du chapitre 3e, la conclusion, verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu insistes sur ces choses. Alors la conclusion est que, étant donné cette parole de la grâce qui est certaine, étant donné tout ce que Dieu a fait pour nous dans sa grâce infinie, nous avons maintenant à marcher dans les bonnes œuvres et plus encore à être les premiers dans les bonnes œuvres. Enfin, à la fin du livre de l'Apocalypse, nous avons deux fois cette expression « Ces paroles sont certaines et véritables en rapport avec la gloire ». Au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, il nous est dit ceci, verset 5 du chapitre 21, il me dit « Écris ». Car ces paroles sont certaines et véritables. Et au chapitre 22e, au verset 6, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ce sont les paroles certaines et véritables en rapport avec la gloire à venir. N'avons-nous pas là, chers amis, tout un enseignement complet dans l'exposé de ces paroles certaines et véritables? Le point de départ, le salut par Jésus-Christ. Le point d'arrivée, la gloire avec lui dans le ciel. Et entre deux, notre témoignage collectif en tant qu'assemblée de Dieu et notre témoignage personnel sur cette terre. Cette parole est certaine et véritable. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
dont moi je suis le premier. L'apôtre Paul pouvait le dire. Nous ne pouvons pas le dire. Nous le dirions, nous serions encore des orgueilleux. Nous nous mettrions en évidence en parlant, soi-disant, de notre misère morale. Il ne convient pas du tout à ce que des hommes comme nous emploient cette expression en disant « dont moi, je suis le premier ». L'apôtre Paul pouvait le dire. Et en effet, quand on pense au christianisme, il était là, il se présente en toute réalité comme étant le premier des pécheurs. Voilà pourquoi il fait ressortir à son égard, lui, misérable créature, toute l'ampleur de la miséricorde de Dieu. Mais miséricorde m'a été faite. Et il le répète, mais miséricorde m'a été faite.
Verset 15e est bien en rapport avec ce que l'apôtre a dit précédemment. Au verset 14, lorsqu'il souligne la grâce de notre Seigneur qui a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus, cette surabondante grâce de Dieu, cette grâce qui surabonde là où le péché abondait, l'amène à déclarer cette parole certaine, digne d'être totalement acceptée, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Y aurait-il quelques pécheurs trop coupables? Y aurait-il quelques souillures trop grandes? Y aurait-il quelque misère trop profonde? Non, puisque le premier, celui qui s'intitule ici le premier des pécheurs, a pu être sauvé par cette même grâce. Aucun d'autre ne peut en être exclu, à moins qu'il ne s'en exclue lui-même en s'estimant peut-être pas suffisamment pécheur. Elle a surabondé, là où le péché abondait. Où est-ce que le péché a abondé? Eh bien, dans mon cœur d'abord, et que chacun se sondant un peu lui-même, discernant ses pensées les plus secrètes, discernant ses sentiments inavoués souvent, ne voit-il pas que le péché abonde dans son propre cœur naturel? Eh bien, c'est là d'abord que la grâce a surabondé. Le péché qui se manifeste dans le monde est d'une manière de plus en plus évidente de nos temps. On le voit, sitôt qu'on ouvre un journal, cela éclate dès la première page. Là où le péché abonde encore aujourd'hui, la grâce encore surabonde. Et jusqu'à la fin de cette période de la grâce, elle continuera à surabonder, parce que Dieu veut, et c'est le chapitre suivant qui nous l'a dit, nous l'avons lu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, son intention est à l'égard de tous. Aucun n'est exclu de cette intention de Dieu et de cette offre généreuse, gratuite, universelle.
Dans cette épître, l'œuvre de la croix n'a pas le caractère d'expiation, mais de propitiation. C'est envers tous, le mot « tous » se retrouve. Tous peuvent être sauvés sur la base d'un seul et parfait sacrifice. Nous voudrions ajouter encore ceci qui paraît dominer dans cette épître, c'est que le titre de Seigneur est lié au nom de Jésus. Fin du verset 2, dans les versets que nous venons de lire, la grâce de notre Seigneur, verset 14, et plus loin encore dans l'Épître, on retrouve le mot « Seigneur » lié au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Dans la chrétienté, on connaît Jésus comme le Sauveur. C'est très heureux, c'est très précieux, mais il y a beaucoup plus que cela. Il est le Seigneur, c'est-à-dire celui qui a tous les droits sur nos cœurs. Et comme il s'agit dans cette épître de l'ordre, dans la maison de Dieu, envisagée encore dans son bon état, comme la colonne et le soutien de la vérité, le Christ est fils sur sa maison. Il est le Seigneur. Qu'aucun de nous ne perde de vue la solennité qui se rattache au fait que nous appartenons à un maître qui nous a rachetés.
pensée du nom du Seigneur mérite d'être soulignée, mentionnée plus d'une fois en rapport avec le salut qui est notre part. On entend beaucoup parler du Sauveur, on n'a pas tort de parler de notre Sauveur, mais n'est-il pas bon de souligner ce qu'exprime le titre de notre Seigneur, l'autorité de notre Seigneur? Est-ce que l'apôtre Pierre ne l'a pas dit dans son discours lors de la célèbre rencontre à Jérusalem, ce que les historiens appellent le Concile de Jérusalem, au chapitre 15 du livre des Actes? Quand il parle simplement du salut, eh bien, il dit ceci au chapitre 15 du livre des Actes, au verset 11, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière qu'eux aussi. Et tous ceux qui auront pris la peine de lire attentivement le livre des Actes des Apôtres auront été étonnés de voir combien de fois le nom du Seigneur est mentionné. C'est le Seigneur et encore le Seigneur, et en fait, il est rarement parlé du Sauveur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On ne peut pas parler, chers amis, du Sauveur sans parler du Seigneur et sans être ainsi occupé de l'autorité que comporte un tel titre de gloire, le Seigneur.
XV est aussi digne d'être mis en parallèle avec deux autres passages de la parole concernant l'apôtre Paul. Ici, au verset 15, Paul prend la première place. Il est au nombre de ses pécheurs et il n'hésite pas à prendre dans ce grand cercle la première place. Si nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15e et au verset 9, nous pouvons voir ce que l'apôtre disait là. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, et persécuté l'assemblée de Dieu. Et le deuxième passage se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3e et au verset 8, où nous pouvons lire encore. À moi, qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ. L'apôtre Paul se situe par rapport à trois cercles. Un cercle tout limité, le premier. Il est le moindre de tous les apôtres. Les apôtres étaient au nombre de 12 et peut-être, si nous ajoutons Barnabas, de 13. Ensuite, dans les Éphésiens, il parle du cercle beaucoup plus étendu des saints. Les saints sont par milliers de milliers, myriades de myriades. Ils n'hésitent pas à prendre la dernière place. Lorsque dans l'Épître à Timothée, il parle des pécheurs, il n'hésite pas à prendre alors la première place. Et cela justifie pour lui ce qu'il dit de cette miséricorde qu'il glorifie, qu'il magnifie, dont tous ici, pécheurs, petits ou grands, nous sommes tous tributaires.
Cette surabondante grâce de Dieu, dont il a été l'objet de la part du Seigneur, reste gravée en caractère indélébile dans le fond de son cœur. Il en parle avec une émotion contenue. Il ne cesse de rappeler cette surabondante grâce de Dieu. Il l'évoque en termes émus. Et pour cela, pour comprendre pourquoi il en est ainsi, il suffit de nous rapporter, comme on l'a fait déjà dans le livre des Actes, où des expressions extraordinaires sont employées. Il nous est dit au chapitre 26 du livre des Actes, transporté de fureur contre eux. Je l'ai persécuté même jusque dans les villes étrangères. Transporté de fureur. Il les contraignait à blasphémer. Il outrageait. Et alors, quelle dut être sa stupéfaction lors de la vision céleste. Quel exercice de cœur et de conscience se poursuivit dans son âme. Après avoir été témoin, après avoir entendu cette voix, « Je suis Jésus que tu persécutes. »
L'apôtre nous rappelle par deux fois qu'il a été objet de miséricorde de la part de Dieu et du Seigneur Jésus. La première fois pour rappeler que cette miséricorde lui a été faite à cause de son ignorance jusqu'au jour où il a été terrassé dans la vraie lumière de Dieu. Et au verset 16, la deuxième fois, c'est pour montrer comment Dieu agit, quelle est la manière d'agir de Dieu. Il est un exemple vivant de la manière dont Dieu peut opérer dans le cœur le plus dur, le plus endurci, le plus opposé à lui. Tous les miracles sont possibles pour Dieu. Et lui en était un vivant exemple. Dieu avait exercé une patience inégalable à son égard, afin qu'il montrât toute sa patience. Il avait attendu que Saul de Tarse ait fait toutes ses preuves, hein, Saul de Tarse, qui pourra confesser dans l'Épître aux Philippiens que quant à la justice, qui est selon la loi, il était véritablement sans reproche. Voilà ce qu'il pensait être, voilà ce qu'il était à ses yeux et peut-être aux yeux d'autrui. Eh bien, Dieu a pris patience à son égard, attendant qu'il ait donné sa vraie mesure de ce qu'un homme, selon sa propre justice, peut accomplir contre Dieu. Et lorsque tout a été manifesté dans les versets qui viennent d'être lus en particulier, alors Dieu l'arrête. Et Dieu agit dans un cœur pour véritablement l'éclairer en le terrassant. Et cela à la surprise même des plus fidèles serviteurs de Dieu. Un fidèle serviteur comme Ananias a été étonné d'une telle chose. Pourtant, il vivait près de Dieu. Eh bien, c'était un homme qui pouvait dire « Me voici, Seigneur, me voici. » Mais quelle est donc la mission que tu vas me confier? Eh bien, d'aller vers Saul de Tarse. Mais je connais cet homme, tu le connais aussi, Seigneur. Il y a une conversation intime entre Ananias et le Seigneur, entre le Seigneur et Ananias au sujet de Saul de Tarse. Et alors, Ananias va alors être en présence d'un miracle divin. Eh bien, ce Saul de Tarse que tu connaissais, dont tu avais ouï dire, parler à plusieurs de cet homme, combien de maux il a fait au sein dans Jérusalem et ailleurs, eh bien, c'est celui-là que j'ai choisi. C'est celui-là dans le cœur duquel je vais agir, c'est celui-là que je vais tourner vers moi et en faire un vase d'élection, et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Il est préparé par moi pour un saint service, un grand service. Il portera mon nom devant les rois, les nations, les rois et les fils d'Israël. C'est un vase choisi par moi. Mais auparavant, il faut que Saul de Tarse disparaisse. Ça n'est pas un Saul de Tarse amélioré jusqu'à devenir un Paul apôtre, pas du tout. Ce jour-là, Saul disparaît de la scène. Saul est mort et Paul est alors un homme qui vit en Christ, un homme en Christ, Christ qui est manifesté en lui. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et toute la vie de l'apôtre Paul se résumera dans cette expression, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est un exemple de toute la grâce de Dieu opérée dans le cœur d'un homme. Et c'est un exemple aussi, ensuite, de la manière dont Dieu peut opérer dans un serviteur qu'il a formé pour lui.
L'apôtre Paul se présente comme étant le premier des pécheurs. Il se présente tout naturellement comme étant un objet exceptionnel de la patience du Seigneur. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ, montra toute sa patience afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Ce passage est très beau et en même temps très encourageant pour venir au Seigneur et sans hésitation. Si le Seigneur a pu magnifier sa patience à l'égard d'un pécheur comme moi, et je suis le premier des pécheurs, eh bien, il fait de moi un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle, combien toute âme devrait être ainsi encouragée, du sein même, disons, de la conscience, de son état de péché. On pourrait peut-être dire, mais est-il possible que le Seigneur puisse user de grâce à mon égard? Eh bien voilà, l'apôtre Paul nous parle, « Afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. » Il y a là un suprême encouragement pour toute âme qui ne connaît pas encore le Seigneur de venir à lui-même si elle est consciente, disons, d'un très grave état de péché. Le Seigneur est là, non seulement pour lui faire grâce, mais pour surabonder, comme on vient de l'entendre, surabonder dans sa grâce, et pour user de miséricorde. Cette âme pourra dire alors, mais miséricorde m'a été faite. Et en pensant à cette surabondance de la grâce de Dieu, en pensant à cette miséricorde de la part du Seigneur, l'apôtre ne peut pas faire autre chose que d'éclater en louange, en reconnaissance et en adoration. Et c'est ce qui est exprimé par la doxologie du verset 17e.
Dont il vient d'être parlé et montré toute sa patience. Il y a un verset remarquable de l'Épître aux Romains qui parle de cette patience. Au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Les richesses de sa bonté et de sa patience, cette patience qui attend depuis longtemps et de sa longue attente. Y aurait-il ici une âme à laquelle Dieu pourrait s'adresser en lui disant « Je t'attends depuis longtemps. » De sa longue attente, Dieu est patient. Il attend patiemment. Il sollicite une âme à venir. Il emploie tous les moyens pour cela. Ne méprisons pas cette patience, cette bonté, non seulement cette attente, mais cette longue attente, des années durant. Qui veut faire miséricorde, qui veut sauver? Ce Dieu sauveur, dont on a parlé tout à l'heure, nous pourrions lire un verset dans l'évangile de Jean, à ce sujet, fin du chapitre 12, le Seigneur dit, car verset 49, « Car moi je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, lui-même m'a commandé ce que je devais dire et comment j'avais à parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. »
La patience de Dieu est une vertu proprement divine, mais une vertu qui n'est pas illimitée comme sont les autres. La patience de Dieu, que ce soit à l'égard d'un homme qui ne connaît pas Dieu, que ce soit à l'égard d'un croyant, la patience de Dieu n'est pas illimitée. Elle aura un terme, nous devons en être pleinement convaincus. Cette patience de Dieu a été mentionnée plus d'une fois dans l'Ancien Testament, et nous comprenons bien qu'il ait fallu qu'il en soit ainsi en présence d'un peuple rebelle comme le fut le peuple d'Israël. Nous aimerions citer simplement deux passages des prophètes, l'un du prophète Ésaïe, l'autre du prophète Michée. Le prophète Ésaïe, au chapitre 7e de son livre, dit ceci, au verset 10e, « Et l'Éternel parla encore à Achaz, disant, « Demande pour toi un signe de la part de l'Éternel ton Dieu, demande-le dans les lieux bas ou dans les hauteurs d'en haut,
Et Achaz dit, je ne le demanderai pas et je ne tenterai pas l'Éternel. Et il dit, écoutez donc, maison de David, est-ce peu de chose pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez aussi la patience de mon Dieu? Et c'est alors que le signe d'Emmanuel est annoncé. Et dans le livre du prophète Michée, au chapitre 2e, au verset 7e, Michée 2, verset 7, « Toi qui es appelé la maison de Jacob, l'Éternel est-il impatient? Sont-ce là ses actes? Mes paroles ne font-elles pas du bien à celui qui marche avec droiture? » Les enfants d'Israël, au temps du prophète Michée, ne marchaient pas du tout avec droiture. Alors celui qui marchait avec droiture appréciait tout ce qu'il y avait de bien et d'édifiant dans les paroles de l'Éternel. Il appréciait la patience de l'Éternel. L'Éternel est-il impatient? Sont-ce là ses actes? Mes paroles ne font-elles pas du bien à celui qui marche avec droiture? La patience de l'Éternel est mentionnée à d'autres occasions dans l'Ancien Testament, tant il est vrai que Dieu est patient. Et si nous pensons à nous-mêmes dans nos témoignages personnels et à nous-mêmes dans nos témoignages collectifs, ne devons-nous pas rendre grâce au Seigneur pour sa patience et son long support?
Est-ce qu'on peut rapprocher ce passage, la patience de Dieu, avec le passage de la seconde épître de Pierre?
La patience du Seigneur. La patience, verset 15, la seconde épître de Pierre, chapitre 3. La patience de notre Seigneur est salut.
La patience de notre Seigneur est salut. C'est en cela qu'elle se manifeste tout d'abord à l'égard de l'homme pécheur, voulant que personne ne soit perdu, mais qu'au contraire, chacun vienne à la repentance, la patience. Il est patient envers vous. Dans ce contexte, qu'il nous soit permis d'ouvrir cette petite parenthèse, dans le contexte de 2 Pierre 3, il nous est parlé de la promesse de la venue du Seigneur. Il y a des moqueurs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours plus, des moqueurs à l'endroit de la promesse de la venue du Seigneur. Alors l'apôtre Pierre dit qu'il n'y a pas de retardement en ce qui concerne la promesse, mais le Seigneur patiente. Est-ce que l'on ne peut pas dire, sur un plan tout pratique, qu'il serait préférable de dire le Seigneur est patient, le Seigneur patient. Si le Seigneur patiente, nous ferons telle ou telle chose, plutôt que de dire si le Seigneur tarde. Puisque la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de retardement, ne disons pas si le Seigneur tarde. Nous comprenons très bien que les frères, les sœurs qui emploient une telle expression veulent penser simplement au fait que si le Seigneur n'est pas encore venu. Mais pour être exact, pour nous en tenir au texte de la parole, ne serait-il pas préférable de dire si le Seigneur patiente plutôt que de dire si le Seigneur tarde?
N'avons-nous pas une illustration merveilleuse de cette patience de Dieu envers le coupable dans la parabole de Luc 15, du fils prodigue, ce père qui attend le retour du fils? Ses bras sont ouverts, il le voit de loin, et le fils prodigue n'a pas le temps de dire tout ce qu'il voulait dire. Le père le couvre de baisers. Quelle surabondante grâce brille là, dans l'attitude du père qui reçoit son fils, coupable, mais qui s'est repenti. La patience de Dieu est salut.
cette patience que Dieu montre selon notre verset de 1 Timothée 1, cette patience qui est salue selon 2 Pierre 3, il est dit aussi dans le verset qui vient d'être cité, aussi en 2 Pierre 3, il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Soulignons ce « envers vous ». Nous penserions qu'il aurait été plus logique de dire « il est patient envers ce monde, ne voulant pas qu'aucun périsse ». Il est patient envers tant de pécheurs qui sont encore loin de lui. Mais voici l'apôtre Pierre qui s'adresse pourtant à des chrétiens. Il leur dit « il est patient envers vous ». Nous sommes nous aussi les objets de sa patience. Ne pourrait-on pas dire que le Seigneur désire voir une église, une bien-aimée dont le cœur soit entièrement tourné vers lui, qui l'attende comme lui-même attend, que nous gardions la parole de sa patience, qu'il trouve dans nos cœurs un écho de ses propres affections, qui souhaite ardemment le moment où il aura sa bien-aimée auprès de lui. Il est patient envers nous, attendant qu'un tel état d'esprit, un tel état d'âme soit produit dans nos cœurs par son esprit.
Encore une fois, cette patience s'exerce à l'égard de ceux qui périssent, mais elle aura un terme, cela vient d'être dit. Et un exemple est donné précisément par l'apôtre Pierre. Si nous avons dans ce chapitre 3 de la seconde épître des ignorants volontaires, comme d'ailleurs l'était l'apôtre Paul, nous l'avons souligné hier, comme l'était Saul de Tarse, il y a pour eux une patience qui s'exerce jusqu'à un certain point. Et il leur est rappelé qu'il y a eu un déluge, qu'ils veuillent en prendre conscience ou non, qu'ils l'ignorent volontairement, cela a eu lieu. Et de la même manière, une subite destruction viendra sur eux, comme elle est venue sur ceux qui ont vécu du temps du déluge. Comme le Seigneur lui-même le dit, le déluge vint et les emporta tous. Mais ceci après un long temps, un très long temps, un temps compté même dans la parole de la patience de Dieu. Et l'apôtre Pierre, dans sa première épître, peut dire au sujet de ces esprits qui sont en prison qu'ils ont été autrefois désobéissants quand la patience de Dieu attendait. La patience de Dieu a attendu longtemps. Et puis, dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait, il y avait un témoignage qu'il arriverait quelque chose. Il y avait la prédication de justice de Noé. Il y avait ces actes justes, cette construction de l'arche. Il y avait un témoignage rendu. Les hommes n'ont pas voulu recevoir ce témoignage. Dieu, pourtant, dans sa patience, a parlé. Et puis, lorsque la destruction vient, elle est subite. Nous trouvons d'autres exemples, nous ne pouvons pas allonger, dans les Écritures, dans les Épîtres en particulier, de la manière dont Dieu attend avec patience. Mais le jour où la condamnation vient, le jour où la destruction vient, elle est subite. Et c'est ce qui se produira aussi à un moment lorsque le monde aura méconnu les avertissements de Dieu, lorsqu'il aura méprisé sa parole, alors Dieu agira et la destruction sera subite et totale.
L'apôtre Paul, alors, ayant parlé ainsi de la surabondante grâce de Dieu, de sa miséricorde et de sa patience, en arrive à exprimer l'adoration dont ce seul Dieu est digne. Et nous avons au verset 17 cette doxologie, « Or qu'au roi des siècles, incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Nous avons là ce que on appelle une doxologie, c'est-à-dire une parole de gloire, doxologie, une parole de gloire que nous avons vraisemblablement au nombre de 14 dans les livres du Nouveau Testament. La première de ces doxologies est à la fin de Romains 11. Romains 11 qui nous dit ceci, « De lui et par lui et pour lui sont toutes choses, à lui soit la gloire éternellement. Amen. » Et au cours des épîtres, il y en a plusieurs, nous ne pouvons pas les citer maintenant, cela nous éloignerait de notre sujet, pour arriver alors à la dernière, à celle du livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, quand il est dit « À lui la gloire et la force au siècle des siècles, c'est-à-dire à celui qui nous aime. Apocalypse 1, verset 5e. Et entre ces deux doxologies extrêmes, nous avons alors 12 doxologies qui sont un sujet de méditation profonde pour nos âmes. Dans certaines assemblées, ce sujet a été étudié comme sujet de réunion d'études, et l'édification et la bénédiction de la part de Dieu ont été évidents dans la méditation d'un tel sujet, pour la bonne et excellente raison que quand on est occupé d'un tel sujet, on est occupé de Dieu lui-même et du Seigneur Jésus lui-même, et non pas tant de nous-mêmes. Nous avons là la sixième doxologie au verset 17, et à la fin de la première épître, nous avons la septième, la première épître à Timothée, qui nous parle donc du Dieu sauveur, et qui nous parle en même temps de l'assemblée du Dieu vivant, et de l'ordre qui convient à une telle assemblée, à la maison de Dieu. Cette épître se termine, est encadré par deux doxologies, celle de notre verset 17 et au chapitre 6e également. Or, qu'au roi des siècles, c'est-à-dire celui qui règne, celui qui domine, celui qui est au-dessus de toute notion de temps et même d'éternité. Il est au-dessus de toute notion de temps et d'éternité. Il est le roi des siècles. Et puis, il est l'incorruptible, celui qui ne peut être touché par rien, ni moralement, ni physiquement. Nous-mêmes, nous sommes des êtres corruptibles, moralement, physiquement. Dieu est l'incorruptible. Il est également l'invisible, comme il est dit dans la doxologie de la fin de l'Épître, le Dieu lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen. Et enfin, il est le seul Dieu. N'oublions pas que nous sommes en pleine idolâtrie. Là, vers la fin du premier siècle de l'ère chrétienne, on adorait des multitudes de faux dieux, des déesses de tout genre. Eh bien, Dieu est là, se présentant comme étant le seul Dieu, celui qui seul est sage, comme il est dit ailleurs. Peut-être pourrions-nous le dire dans notre verset, selon la note au bas de la page. Il est le seul Dieu, c'est-à-dire lui seul est digne de toute adoration. En effet, à lui seul soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.
Ô roi des siècles, d'éternité en éternité tu es Dieu, dit Moïse au début du psaume 90. Pour lui, le temps est apparu, de par sa volonté, dans une éternité qui n'a ni commencement ni fin. C'est le Dieu éternel. Parmi les titres, les sept titres qui sont donnés au Fils, on appellera son nom Père du siècle, en Isaïe, n'est-ce pas? Père du siècle, Prince de paix, le Roi des siècles, au-dessus du temps, l'incorruptible, hein, on l'a dit, oui, c'est celui qui ne peut être altéré en rien, ni en pensée, ni en fait. Il est souvent appelé, nous savons que dans les Épîtres, il est appelé six fois le Dieu de paix, le Dieu de paix, celui dont rien ne peut altérer la sérénité de la face, le Dieu que rien ne peut toucher d'aucune manière, incorruptible. Et puis, l'invisible. Dans la doxologie de la fin de, que l'on a citée à la fin de l'Épître, la question est un petit peu développée. Il nous est dit qu'il habite la lumière inaccessible. Aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir la lumière inaccessible. En lui-même, il est lumière. L'une de ses essences, non pas seulement de ses caractères, mais c'est ce qu'il est en lui-même. Il est lumière Il habite la lumière inaccessible. Cette lumière n'est pas à la portée de la créature, quelle qu'elle soit. Nous verrons Dieu éternellement dans la face de Christ. Et déjà, selon 1 Corinthiens 4, c'est ainsi qu'a reluit dans nos cœurs la connaissance de sa gloire, la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Dieu est vu en Christ, a été vu en Christ quand il était sur la terre, et vu en Christ par les rachetés actuellement, car c'est leur privilège. Celui qui est caché au monde est visible à la fois. Nous voyons Jésus, couronné de gloire et d'honneur. Il sera vu éternellement. Ses esclaves le serviront, ils verront sa face. Et verront sa face, dans la face de Christ, éternellement. Et c'est bien l'une de ses prérogatives que d'être le Dieu inscrutable. Et nous ne pouvons connaître de ce Dieu extraordinaire, le Dieu au-delà du temps, le Dieu au-delà de toute atteinte, le Dieu au-delà de toute perception. Nous ne pouvons connaître que ce qu'il nous en révèle, ce que lui-même veut nous révéler de lui-même, dans sa parole, par son esprit, de ce que Jésus lui-même nous a fait connaître de lui. On voit la puissance de Dieu, on voit quelque chose. Il se fait connaître à son peuple dans des relations particulières. Nous avons une révélation toute spéciale. Celui qui est ainsi le Dieu inscrutable, Jésus nous l'a fait connaître. Et il nous l'a fait connaître de la façon la plus précieuse, n'est-ce pas? Selon les relations mêmes qu'il y avait entre les personnes de la divinité. Selon ses relations paternelles et filiales, il nous a fait connaître le Père, il nous a fait connaître son nom, il nous le fait connaître. Et ce Dieu qui apparaît ainsi dans de tels passages, comme un Dieu inconnaissable, se trouve par grâce, un Dieu au contraire, connu, comme un Dieu de près, un Dieu de près. Seul Dieu, seul sage, habitant la lumière inaccessible, oui, mais un Dieu de près. Un Dieu qui s'est approché de nous dans la personne de son Fils, et un Dieu qui, dans la proximité duquel nous serons éternellement, selon ces merveilleuses expressions que nous trouvons à la fin de l'Apocalypse. Ses esclaves le serviront, ils verront sa face, ils verront sa face. La gloire de Dieu, nous le répétons, vue éternellement, qui a été vue déjà sur la terre, et qui sera vue éternellement dans la face de Christ.
Ces caractères liés à la divinité mentionnés dans ce verset 17e, aussi bien que reprises et auxquelles on est rajouté, à cette deuxième doxologie mentionnée au chapitre 6 de cet épître, ces caractères de la divinité sont partagés par notre Sauveur lui-même, le roi des siècles. On vient de citer Ésaïe 9, lui qui est le Père du siècle, incorruptible. N'est-il pas dit de lui, lors même qu'il est entré dans la mort, il était impossible qu'il fût retenu par elle? Et il n'a pas connu la corruption, c'était impossible. Et la deuxième doxologie au verset 16, puisque nous la mettons en parallèle, au verset 16 de 1 Timothée 6, nous dit « Lui seul qui possède l'immortalité », ce qui ajoute encore quelque chose à cette expression l'incorruptible, « il possède en lui-même cette vie, cette origine de vie ». Il le dit au chapitre 5 de l'évangile de Jean, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même. Mais alors, un caractère qui est ici celui de la divinité, que le Seigneur n'a pas revêtu, c'est invisible. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et le chapitre 2 va nous dire « Dieu a été manifesté en chair ». Il a voulu rendre visible ce qui serait demeuré éternellement invisible s'il n'avait pas revêtu un corps semblable au nôtre à l'exclusion du péché. Mais encore seul Dieu, ce qui n'exclut pas la vérité des trois personnes divines, chacun partageant le caractère de la divinité. Il est seul Dieu, et le chapitre 2 va nous dire il y a que Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il est un, sont un avec le Père, moi et le Père, nous sommes un, dit-il au chapitre 10 de l'évangile de Jean. On a donc ici des caractères de la divinité qui sont partagés par notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à l'exclusion de celui invisible, puisque lui a fait connaître le Père.
Encore dans le chapitre 33 de l'Exode. Exode 33, verset 18. Et Moïse dit, « Fais-moi voir, je te prie, ta gloire. » Et il dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. » Et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher. Et il arrivera quand ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se verra pas. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître.
Dans le même livre de l'Exode, au chapitre 24e, nous avons à deux fois cité l'expression « ils virent Dieu ». Il s'agit de Moïse, d'Aaron, de Nadab et Abihu, les deux fils aînés d'Aaron, et 70 des anciens du peuple d'Israël qui sont montés sur la montagne. Et là, il est dit d'eux qu'au chapitre 24e de l'Exode, ils virent le Dieu d'Israël dans une splendeur incomparable et sous ses pieds comme un ouvrage de zaphir transparent et comme le ciel même en pureté. Et au verset 11, il est dit qu'il ne porta point sa main sur les nobles dans ses fils d'Israël. Ils virent Dieu, et plus encore, ils mangèrent et burent sans être troublés du tout par une telle vision. Comment nous faut-il comprendre ce « ils virent Dieu » en contraste avec divers passages? Celui qui vient nous être rappelé en Exode 33, personne ne peut voir Dieu et survivre. Voir Dieu, cela voulait dire mourir. Et voilà déjà un passage en Exode 24 qui nous parle d'hommes, pas seulement un Moïse ou un Aaron, mais même les deux fils d'Aaron, ils ont vu Dieu, ils virent Dieu, et cela est répété, ils virent Dieu. Est-ce que nous n'avons pas là la pensée suivante? Dans l'alinéa qui précède, il est parlé d'une double effusion de sang, et la deuxième effusion avait lieu sur le peuple. Aspersion de ce sang était faite sur le peuple. Est-ce qu'il n'y a pas comme une annonce de ce que serait la valeur du très précieux sang de Christ? En vertu de l'effusion du sang de Christ, il nous serait donné de voir Dieu, c'est-à-dire voir Dieu dans la personne de Christ, comme nos frères l'ont répété à plusieurs reprises. Nous avons le privilège de voir Dieu, mais en Christ, la gloire de Dieu en Christ, dont un jour le sang a été répandu. Et en vertu de l'effusion de ce sang répandu, nous avons le privilège ainsi de voir Dieu. Est-ce que nous n'avons pas comme une annonce de ce que l'Évangile plus tard annoncerait, dans cet épisode d'Exode 24. Ils virent Dieu. Ils virent Dieu et mangèrent et burent. Que la parole dise, personne ne peut voir Dieu, si quelqu'un voit Dieu, il meurt, c'est la parole de Dieu qu'il dit, cela ne fait aucun doute, l'évangile même dit, personne ne vit jamais Dieu. Mais n'avons-nous pas là comme une annonce de ce que serait le privilège de celui qui se mettrait à l'abri du sang de Christ, et qui alors, en Christ, pourrait voir la gloire de Dieu.
Certain qu'il n'y a pas de contradiction. Si cette expression est employée ici, c'est bien parce que le sang a été versé, il en est fait aspersion sur le peuple. Il y a l'autel au pied de la montagne, l'image de la croix. Donc, ils virent Dieu, c'est sur le fondement du sacrifice accompli au calvaire. Ce ne peut pas être autrement. Il n'y a pas de contradiction dans la parole. Il y a une douce pensée aussi à propos de l'immortalité. Il est dit que lui seul possède l'immortalité. Et des croyants, il est dit, nous revêtirons l'immortalité. Le corruptible, le corps de ceux qui sont endormis, revêtira l'incorruptibilité. Nous sommes des créatures et nous revêtirons soit l'incorruptibilité pour ceux qui sont délogés, soit l'immortalité pour ceux qui seront vivants à l'avenue du Seigneur. Nous la revêtirons. Lui seul la possède et il n'y a qu'une gloire qu'il fera partager aux siens. C'est sa gloire de fille de l'homme. Selon Jean 17.
En revenant, pour ainsi dire, au verset 5e, avec le verset 18, « Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat. » Je te confie cette ordonnance, notre frère M. Gibert nous en a parlé hier, nous a dit en quoi consistait cette ordonnance que nous avons donc au verset 3 et puis au verset 5, la fin de l'ordonnance c'est l'amour. L'ordonnance, donc un mandat qui avait été confié à Timothée par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait cette autorité, selon l'autorité apostolique, il pouvait confier une telle ordonnance à son véritable enfant dans la foi, Timothée. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet. Quelles sont ces prophéties ? Il y avait probablement dans l'assemblée des frères doués comme prophètes. La prophétie est présentée comme étant un don confié à tel ou tel. La parole de Dieu, lorsqu'elle nous parle des dons de grâce, nous parle de ce don de prophète. Ce prophète qui nous communique de la part de Dieu la parole qui doit être dite à un moment précis, à un moment donné, et en particulier dans la vie de l'assemblée. C'est donc un don d'une extrême utilité, ce don de prophète. Il y avait donc eu des frères prophètes qui avaient discerné en Timothée qu'il ne serait pas seulement un frère, mais qu'il serait un serviteur fort utile à la gloire de son maître. Des prophéties avaient été faites à son sujet, des frères avaient pu énoncer qu'un jour Timothée serait fort utile dans la voie du ministère de Dieu. Selon les prophéties qui ont été faites à ton sujet précédemment, alors je te confie cette ordonnance afin que par elle, c'est-à-dire par les prophéties, tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience que quelques-uns ont rejetée. Nous avons donc un bon combat à soutenir, un bon combat pour la gloire de Dieu, mais ce combat ne peut être soutenu que moyennant une bonne conscience, c'est-à-dire une conscience qui est pleinement à l'aise avec Dieu. Si la conscience n'est pas à l'aise vis-à-vis de Dieu, il sera difficile de soutenir toujours ce bon combat. Il est dit d'abord, tu combattes le bon combat gardant la foi et une bonne conscience, la foi. La foi ici n'a pas le sens qu'a le mot foi dans l'expression une foi sincère que nous avons vu hier. La foi, et c'est plusieurs fois le cas dans les épîtres pastorales, dans l'épître de Jude aussi, la foi qui a été enseignée une fois au saint, la foi c'est l'ensemble de la révélation chrétienne, des vérités qui appartiennent à cette révélation et auxquelles notre foi s'attache. Alors Timothée est exhorté à garder cette foi. Nous avons à garder la foi, mais avec une bonne conscience. Les deux choses vont ensemble. On ne peut pas dire que l'on garde l'enseignement de la parole de Dieu, la saine doctrine, la vérité chrétienne, en ayant une conscience qui n'est pas du tout à l'aise avec Dieu. Les deux choses vont immanquablement ensemble. La foi et une bonne conscience. Quelques-uns l'avaient rejetée, ils avaient fait naufrage quant à la foi.
Sujet de cette prophétie à l'égard de Timothée ou les prophéties, nous avons plus loin au chapitre 4e, au verset 14, l'apôtre qui demande à Timothée, qui l'invite à ne pas négliger. Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains du corps des anciens. Donc lorsque ces prophéties ont été faites au sujet de Timothée, le corps des anciens en avait pris connaissance devant Dieu et avait donné une main d'association, une approbation à Timothée en lui imposant les mains. Et nous notons dans ce verset 14 le mot « avec ». Avec l'imposition des mains du corps des anciens, cette imposition des mains ne conférait rien d'autre qu'une communion exprimée par ce moyen. Tandis que dans la deuxième épître, pour que personne ne soit troublé à l'égard de cette expression, l'imposition des mains, dans la deuxième épître, au verset 6 du chapitre 1er, l'apôtre de nouveau rappelle le don de grâce sans mentionner les prophéties, lui dit « C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. » C'était l'imposition des mains de l'apôtre. L'autorité apostolique qui lui était conférée lui donnait le pouvoir, selon cette autorité, de communiquer quelque chose par l'Esprit à Timothée lui-même, ce qui donc n'a plus cours aujourd'hui, puisque nous n'avons plus d'apôtre.
Il dira, à la fin de sa deuxième lettre, au moment de sa mort qui rapproche, j'ai gardé la foi, c'est-à-dire l'ensemble de la doctrine chrétienne, comme on vient de nous le dire, que la foi saisit. Mais il y a cette bonne conscience, et nous aimerions attirer l'attention sur le fait que la conscience dans le croyant doit être soumise à l'action purificatrice de la parole. Si nous ne restons pas dans la présence de Dieu, si la parole n'a pas toute son autorité sur nous, notre conscience peut être plus ou moins délicate. Dieu veuille que nous ayons tous une conscience délicate qui nous conduira à haïr le mal et à poursuivre le bien.
La conscience a besoin d'être éclairée par la parole de Dieu. Certains déclarent quelquefois, « Oh, mais je fais cela en toute bonne conscience. » Ah, mais on peut aller très loin. Saul de Tarse persécutait l'assemblée de Dieu en toute bonne conscience. Le témoignage de notre propre conscience n'est pas quelque chose de suffisant. Sans doute, c'est quelque chose à quoi nous devons prêter grande attention. On voit à plusieurs reprises l'apôtre dire comment il s'exerçait, avoir une bonne conscience, et il ajoutait devant Dieu et devant les hommes, non pas seulement devant lui-même, bonne conscience. Mais le témoignage pour nous-mêmes, notre conscience, n'est pas quelque chose de suffisant, parce que notre conscience est facilement obscurcie. Et souvent, nous prenons pour une approbation de Dieu ce qui n'est que nos propres pensées. Une bonne conscience, oui, bien nécessaire. Mais ce n'est pas à soi seul une règle suffisante. La règle, c'est la parole de Dieu.
Au chapitre 4 de la première épître aux Corinthiens, le verset 4e, l'apôtre Paul dit lui-même, en Corinthiens 4, verset 4, « Car je n'ai rien sur ma conscience, mais par là je ne suis pas justifié, mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. »
Le chrétien a une conscience et le chrétien a un cœur. Il a été rappelé hier que cette épître nous dévoile les deux choses, mais insiste peut-être plus sur le côté de l'autorité de la part de Dieu et de la responsabilité de la part du croyant, plutôt que sur le côté des affections. Pourtant, l'expression « conscience » revient au moins à 4 reprises dans ces chapitres et elle est liée dans les premiers versets au cœur. Nous l'avons vu. Et il est remarquable que dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons au point de départ de la carrière chrétienne ces mêmes expressions concernant la foi, la conscience et le cœur. Dans notre chapitre, donc, au verset 5, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ce qui marque le départ. Dans Hébreux 10, nous ne pouvons nous approcher de Dieu que sur ce terrain-là. C'est-à-dire avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. C'est donc ce que Dieu fait et la manière dont il agit pour donner aux croyants la possibilité de s'approcher de lui dans cette position-là, vue en Christ, purifiée. C'est le corps lavé d'eau pure, c'est ce qui s'opère. Et ceci doit être continué dans la pratique, c'est ce que nous avons trouvé donc au début de notre chapitre. Le cœur pur, la bonne conscience, la foi sincère. Et pourquoi donc Hyménée et Alexandre ont fait naufrage quant à la foi? C'est parce qu'ils n'ont pas gardé une bonne conscience. Le mal doctrinal est intimement associé au mal moral. La preuve en est, c'est qu'au verset 10, nous avons vu qu'il est question de la saine doctrine. Et quelles sont donc les choses qui s'opposent à la saine doctrine? Sont-ce ces fausses doctrines, ces paroles d'hommes? Non, pas seulement cela, mais le mal moral, tout ce qui est décrit dans le verset 9 et dans le verset 10. Voilà donc ce qui s'oppose à la saine doctrine. Tout ce qui est corruption, tout ce qui est offense à Dieu. Voilà donc ce qui s'oppose à la saine doctrine. Si donc nous voulons garder la saine doctrine, la foi, si nous voulons l'exposer et l'enseigner, il faut garder une bonne conscience. Et nous avons des exemples de ceux qui, n'ayant pas gardé cette conscience délicate et sensible devant Dieu, ont fait aussi naufrage quant à la foi, nous le savons bien. Donc, l'apôtre Paul s'exerçait à avoir une bonne conscience, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes, dit-il devant Félix. C'est ce qui lui permettait d'ouvrir la bouche toute grande et de parler. C'est la manière dont il se conduisait qui accréditait sa parole, et c'est ce qui accrédite la parole de tout croyant. C'est ce qui accrédite aussi la parole d'un serviteur et les actions d'un serviteur. Nous trouvons cela dans le chapitre 2e. Les serviteurs sont caractérisés par ce fait, verset 9, qu'ils gardent le mystère de la foi, encore la foi alliée à la conscience, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure. Un serviteur, et nous sommes tous des serviteurs, et nous avons tous un service. Il faut donc, il y en a qui sont plus officiellement considérés comme serviteurs dans l'assemblée, mais il y a ce qui doit les caractériser, une conscience pure. C'est ainsi qu'on peut garder ce mystère de la foi qui échappe à ceux qui n'ont pas bonne conscience. Et alors, lorsque la conscience arrive à être cautérisée, c'est ce que nous trouvons au chapitre 4e, c'est l'apostasie de la foi. La conscience, devenue insensible, s'endurcit, et alors le cœur n'est plus aux choses de Dieu. Le cœur est aux choses légales, aux choses du monde. Le cœur s'attache à autre chose qu'à la parole de Dieu, s'attache à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. Et c'est ce qui caractérise tous ceux qui se placent ainsi sur le terrain légal parce que leur bonne conscience n'est plus là, parce que leur conscience n'est pas bonne. Ils apostasient finalement de la foi, c'est ce qui arrivera au dernier jour, c'est ce qui arrive autour de nous pour tous ceux qui disent « ne touche pas, ne goûte pas ». Ont-ils bonne conscience en disant cela? Non, c'est un terrain qui n'est pas le terrain actuel de la grâce. Le terrain actuel de la grâce, c'est ce mystère de la foi, ce mystère de la piété, la personne de Christ, ce mystère donné à connaître à la foi et à garder précieusement, et cela est donné à ceux qui gardent une bonne conscience.
Ce qui a été dit tout à l'heure concernant le don de grâce, il nous faut donc bien nous souvenir de ceci, que le don de grâce ne vient pas de l'exercice de la prophétie par certains, ne vient pas non plus de l'imposition des mains du corps des anciens, mais c'est un don de grâce, un don que la grâce de Dieu a communiqué à tel ou tel, dans le cas particulier, un don exceptionnel confié à Timothée. Et en rapport avec cette pensée du plus haut intérêt concernant l'association du mal doctrinal et du mal moral. Combien de fois on a dit qu'il y avait comme un mal moral qui servait d'ouverture, un mal moral souvent caché, qui servait d'ouverture à la manifestation d'un mal doctrinal, l'exposition d'une fausse doctrine. En effet, comme on vient de l'entendre, il n'y a pas de séparation à faire entre mal doctrinal et mal moral. Un autre exemple, à part ceux qui nous ont été cités, un autre exemple est celui d'un Corinthiens 15. N'est-il pas remarquable que dans ce chapitre, un long et merveilleux chapitre qui nous parle de la vérité de la résurrection du corps, pas seulement une résurrection spirituelle, mais une résurrection du corps, la résurrection du corps des rachetés. Il y a là tout un développement remarquable donné de la part de Dieu par l'apôtre. Et puis, au milieu d'un tel développement doctrinal, nous entendons ces mots « Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». C'est le verset 33 d'un Corinthiens 15. Et ensuite, depuis le verset 35, l'apôtre reprend jusqu'à la fin du chapitre tout l'enseignement concernant la résurrection du corps. Mais au beau milieu d'un tel exposé, nous avons cette exhortation « Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Est-ce que cela ne veut pas dire précisément qu'au mal doctrinal, en général, le mal moral est associé? Il est très rare que chez des hommes qui ont exprimé des fausses doctrines, il n'y ait pas un mal moral sous une forme ou sous une autre qui ait été manifesté tôt ou tard. Bonne conscience que quelques-uns ont rejeté. Le verbe rejeter est au singulier, il ne s'agit pas de la foi et une bonne conscience rejetée, mais une bonne conscience que quelques-uns ont rejetée, et c'est parce qu'ils ont rejeté cette bonne conscience qu'ils ont fait naufrage quant à la foi. Du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est là un acte en vertu de l'autorité apostolique, de l'autorité que l'apôtre Paul avait reçue d'une façon particulière de la part du Seigneur. Il pouvait accomplir un tel acte, livrer des âmes à Satan. Mais encore, tout à la fin, une pensée de grâce, non pas pour qu'il soit résolument et définitivement, éternellement perdu, mais afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ils s'étaient manifestés comme des blasphémateurs, à l'égard de la foi chrétienne, l'apôtre les a livrés à Satan, mais afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
Est-il le même que celui qui est mentionné en 2 Timothée 2, verset 17? S'il en est ainsi, l'acte d'être livré à Satan, hélas, n'a pas porté de fruits.
L'autorité de l'apôtre s'exerçait donc dans un but final de miséricorde, pour essayer de ramener, c'était là une discipline toute particulière, une discipline apostolique. Seul Paul ou un apôtre avait une telle autorité, livrée à Satan, mais c'était dans un but de restauration, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. De la même façon que nous avons dans 1 Corinthiens 5, que l'apôtre a jugé de livrer un tel homme à Satan. Pourquoi ? Pour la destruction de la chair. Pourquoi ? Afin que l'esprit soit sauvé dans la journée de notre Seigneur Jésus-Christ. Sont là des exemples d'une discipline extrême que seul pouvait exercer une autorité apostolique. Mais nous savons bien que d'une façon générale, toute discipline est exercée, doit être exercée au moins, n'est-ce pas, dans un but final de miséricorde, de salut.
Livré à Satan, être livré à son pouvoir est une condition terrible. Satan ayant pouvoir sur de telles âmes, physiquement, pouvant permettre ainsi que dans leur santé, ces âmes soient atteintes, moralement, matériellement, être réduit à la plus extrême misère, nous ne nous rendons pas toujours compte de l'ampleur de cette expression « être livré à Satan ». Mais aussi, pas pour être dans un état de misère qui dure et qui dure toujours, mais il y a cette pensée de restauration afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
N'a-t-on pas un exemple bien connu dans l'Écriture, Job lui-même. C'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui le livre entre les mains de Satan. Sous l'instigation de Satan, c'est vrai, mais Dieu gardant son autorité, disant à Satan, tu pourras toucher à ses biens, mais ne touche pas à lui-même. Pour la deuxième fois, tu pourras toucher à son corps, mais ne touche pas à sa vie. Et ainsi, livré à Satan, et réduit à cette misère sans nom qui est dépeinte dans tout son livre, le but de Dieu, c'était bel et bien une restauration totale. Et Jacques le souligne en reparlant de l'épreuve de ce patriarche de Job. Vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux.
Si à la fin de notre lecture du premier chapitre, sans vouloir interrompre le cours de pensée qui peuvent être encore exprimés par de chers frères, nous pensons qu'il est plus sage de garder la lecture du chapitre deuxième pour la journée de demain, si Dieu le permet. Mais nous ne voulons pas mettre en disant cela un terme à notre méditation maintenant, au contraire, donner toute liberté que des frères qui auraient accord d'exprimer encore une pensée ne manquent pas de le faire, bien entendu.
Pensez encore sur le bon combat sur lequel nous avons passé un peu rapidement à la fin du verset 18e, que tu combattes le bon combat. L'apôtre dira à la fin de la deuxième épître, envisageant donc le terme de sa vie, le temps de son départ, il servait déjà de libation Et il peut dire « J'ai combattu le bon combat ». Il pouvait regarder en arrière et se souvenir des divers épisodes de ce combat. Ce fut le bon combat. Et il invite aussi Timothée, dans un autre passage, à combattre le bon combat. Combat le bon combat de la foi, au verset 12 du chapitre 6 de la première épître. Combat le bon combat de la foi. Et ce combat, l'apôtre Paul en parle à plusieurs reprises dans ses épîtres. C'est donc cette énergie spirituelle qui est déployée avec le Seigneur. Le bon combat, pour ce bon combat, nous sommes du côté de celui qui a déjà vaincu. Ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. Le Seigneur le dit, ce sont ses dernières paroles dans l'évangile de Jean. Ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. Mais l'apôtre Jean lui-même dira au chapitre 5 de son épître, c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir votre foi. Donc, par la foi, le croyant se met du côté du vainqueur et la grâce de Dieu attribue à la foi du racheté la victoire que lui-même a remportée. Combat le bon combat, c'est le bon combat de la foi et la victoire peut être remportée si les deux éléments suivants de notre lecture sont réalisés, garder la foi et une bonne conscience.
Bien entendu, est en rapport avec le combat pour le maintien de la foi chrétienne. C'est le combat dans le sens doctrinal du mot. Nous avons à soutenir un tel combat en vue d'un maintien de la vérité chrétienne et d'une façon plus générale, la vérité de la parole de Dieu. C'est un véritable combat que de lutter pour le maintien de la vérité de Dieu, telle qu'elle nous est révélée par sa propre parole.
C'est le combat que nous trouvons au début de l'épître de Jude, n'est-ce pas? Il s'agit de combattre pour la foi, c'est-à-dire pour la doctrine, pour l'ensemble des vérités, enseigner déjà une première fois aux saints.
Tout d'abord, une première acception, la foi est cette confiance que l'on a en Dieu, celle que le Seigneur avait lorsqu'il pouvait dire, selon les paroles du psalmiste, « Je me confie en toi ». La seconde acception de la foi, c'est cette disposition du cœur qui saisit les vérités de la parole, ce que dit Christ, cette foi qui sauve, cette foi dont le Seigneur parlait à cette femme dans l'évangile de Luc au chapitre 7, à qui il a pu dire « Ta foi t'a sauvé ». La troisième acception, c'est le sens que nous avons ici dans l'épître à Timothée. C'est l'ensemble des vérités chrétiennes, celles dont il est parlé au chapitre 6 du livre des Actes, celles dont il est parlé ici, nous l'avons vu tout à l'heure, gardant la foi, au chapitre 4, toujours dans le même sens, certains ont apostatié de la foi, au chapitre 5, ceux qui ne prennent pas soin des leurs, renie la foi. Et enfin, au chapitre 6e, nous avons encore ce que l'apôtre dit au Timothée, garde ce qui t'a été confié. Et à la fin de ce verset 21, il est parlé encore de la foi, de cette foi à laquelle il a été rappelé. Jude fait aussi mention. Jude pouvait écrire à ses correspondants ce que nous pouvons lire dans son épître. C'est troisième, bien-aimé, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de l'autre comme un salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. C'est l'ensemble des vérités chrétiennes. Et il y a une quatrième acception du mot « foi » que nous trouvons aussi dans l'épître à Timothée, qui est la mesure d'intelligence avec laquelle le croyant saisit les vérités. Parlant d'Hyménée et Philète, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu et qui renverse la foi de quelques hommes. De même, au chapitre 14 de l'épître aux Romains, au verset 22, nous avons le mot foi employé pour désigner la mesure d'intelligence avec laquelle ces vérités ont été reçues et comprises.